bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La personnalité de Bernard Prenat a été expertisée hier lors de son procès. Un pervers narcissique qui n'accède pas à la souffrance de l'autre, y a-t-on entendu. Vous entendrez dans un instant la réaction des victimes qui assistent à l'audience. Nous interrogerons ensuite un historien sur la mobilisation contre la réforme des retraites. Elle faiblit, mais elle change aussi de forme. Les rassemblements rappellent ceux des Gilets jaunes. Et puis nous nous pencherons dans cette édition sur une autre mobilisation, celle des agriculteurs en Allemagne. Ils refusent de nouvelles règles écologiques qui ne prennent pas en compte leurs problématiques, disent-ils. Le procès à Lyon de Bernard Prenat touche à sa fin. L'ancien prêtre répond d'agressions sexuelles sur d'anciens scouts, des mineurs, dans les années 80. Ce vendredi auront lieu les réquisitions et la plaidoirie de la défense pour un jugement qui sera mis ensuite en délibéré. Après trois journées intenses pendant lesquelles les experts psychiatriques ont décrit Bernard Prenat comme un pervers sexuel, notre correspondant Christophe Vincent a interrogé des victimes sur leur ressenti. Voici son reportage.
Stéphane O'Haraud a suivi tous les débats.
Je suis beaucoup plus détendu et beaucoup plus soulagé. J'ai commencé une reconstruction bien avant et avec tout ce qui m'est arrivé, il fallait que je passe à autre chose. Donc je n'attendais pas grand-chose de lui et voilà.
Pour Vincent Berger, revoir Bernard Prenat a été une épreuve nécessaire.
Ça rouvre les cicatrices, ça fait mal. C'est encore l'émotion. Je m'attendais pas à pleurer autant. Barbarin, ça m'intéresse moins, mais Prenat, ouais, c'est plus concret pour moi. Il faut quand même être là pour faire du bruit, on va dire, et puis vérifier qu'il aille bien là où il doit aller, dans la ronde publique, la prison ou ailleurs, du moment qu'il touche personne, c'est pas ça qui m'importe. Mais quand même.
Prenat assure qu'il n'a plus sévi après 91 et sa promesse au cardinal de Courtrai, Alexandre Aizé, à l'origine de l'instruction, en doute.
Il a été encore en présence d'enfants pendant des années. Nous avons mis près de 30 ans à parler. Écoutez, s'il y a des victimes récentes, peut-être dans 10 ans, certaines parleront. S'il y en a, en tout cas, je pense que la parole se libérera.
Tous se sont dit troublés de réentendre la voix intacte de leur agresseur.
Lui est désormais officiellement accusé d'agression sexuelle sur mineur. Christophe Rougia a été mis en examen hier et placé sous contrôle judiciaire. Il est accusé d'attouchement par l'actrice Adèle Haenel. Les cortèges étaient plus clairsemés hier contre la réforme des retraites. Pour la 6e journée nationale de mobilisation, il y avait, selon la CGT, 250 000 manifestants à Paris contre 370 000 jeudi dernier. Selon le ministère de l'Intérieur, il n'y avait que 23 000 manifestants dans les rues parisiennes hier, 28 000, dit le cabinet Occurrence, et 187 000 partout en France. Une mobilisation qui fléchit donc et qui change peu à peu de visage. C'est l'analyse qu'en fait Stéphane Sirot, spécialiste des conflits sociaux, professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Il est interrogé par Anne-Laure Jumet.
On a encore un noyau de grévistes, de manifestants qui reste malgré tout assez significatif et qui, d'une certaine manière, peut laisser penser aussi qu'il y aurait une espèce de gilet jaunisation de ce mouvement social. Je veux dire par là que, comme on l'avait vu avec les gilets jaunes il y a un an, où le gros de la vague s'était produit en novembre-décembre, il n'empêche qu'ensuite, pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois, des mobilisations avaient continué à se produire, même si elles étaient moins significatives en nombre. Et il me semble qu'on pourrait avoir quelque chose d'assez ressemblant avec ce mouvement social, c'est-à-dire quelque chose qui, au fond, n'aurait presque jamais de fin, ou en tout cas qui mettrait un temps extrêmement long à véritablement s'achever. Je pense que ce mouvement est peut-être en train de se transformer, c'est-à-dire qu'il n'est plus en effet aussi massif qu'il a pu l'être, mais qu'en revanche, il va continuer d'y avoir des mobilisations, un noyau de mobilisation, voire des opérations coup de poing, comme on dit, ou alors des mobilisations ponctuelles qui vont rythmer l'avancée éventuelle du projet de loi du gouvernement. Donc je pense que c'est loin d'être fini, même si ça sera sans doute moins spectaculaire à l'avenir.
Et déjà l'intersyndicale annonce de nouvelles journées de mobilisation mercredi, jeudi et vendredi prochain, date de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Ajoutons que cette grève à la SNCF pourrait finalement coûter 1 milliard d'euros, selon le PDG de l'entreprise. Jean-Pierre Farandou a précisé hier qu'il comptait annoncer un plan d'économie au mois de février. Il précise toutefois qu'il ne souhaite pas pour autant supprimer d'emplois sur le terrain. Et c'est en plein conflit sociale et à 2 ans et demi de la prochaine élection présidentielle qu'hier, Marine Le Pen a fait acte de candidature. Une décision annoncée lors de ses vœux à la presse. La présidente du Rassemblement national explique porter un projet d'unité nationale. Annonce qui n'est pas une surprise puisque Marine Le Pen avait déjà dit son envie d'être candidate pour la 3e fois en octobre dernier. Mais en se déclarant si tôt, elle prend en fait date dans la perspective d'un futur duel avec Emmanuel Macron. C'est ce que nous explique le politologue Jérôme Sainte-Marie, président de la Société d'études et de conseils PollingVox.
Il n'y a pas de concurrence désormais pour elle au sein du Rassemblement national, puisque Marion Maréchal s'est éloignée du jeu politique et que personne d'autre n'est apparu. Qu'à gauche, il n'y a pas grand-chose non plus. Elle se constitue ainsi comme réceptacle de toutes les frustrations démocratiques, sociales et même presque émotionnelles que suscite le pouvoir en place. Et donc, elle souhaite que l'usure du pouvoir, qui atteint celui d'Emmanuel Macron comme celui de n'importe quel autre, lui profite davantage. Elle a déjà rassemblé autour d'elle les catégories populaires. Il lui reste à convaincre les classes moyennes, les retraités, et j'imagine que c'est pour cela qu'elle se positionne actuellement. Les derniers sondages, par exemple celui de l'IFOP, montraient qu'au premier tour, elle était donnée à 28, 29, 30%. En d'autres termes, pour l'instant, elle n'a pas de concurrence dans l'opposition à Emmanuel Macron. Elle veut donc se constituer comme opposante principale à Macron. C'est comme ça que l'identifient déjà les Français. Mais je pense qu'elle veut que ce soit durable, un peu comme François Mitterrand, de 1974 à 1980, avait tenu à rester l'opposant principal à Valéry Giscard d'Estaing.
C'était Jérôme Sainte-Marie, interrogé par Pierre Neveu. Et pendant que Marine Le Pen se déclarait candidate à la présidentielle, le président Emmanuel Macron présentait, lui, ses vœux aux armées hier. Sur la base aérienne d'Orléans, le chef de l'État a axé son discours sur l'engagement et la solidarité. Et il ne faut pas, a-t-il dit, oublier le rôle important que joue la France sur la scène internationale, Nathalie Hernandez.
La défense est et restera ma priorité, a réaffirmé le président de la République. L'année 2019 a été intense, 2020 le sera également avec la même ambition, car la France a rappelé Emmanuel Macron est présente sur de nombreux théâtres. Il faut compter avec elle, que ce soit dans les pays baltes, au sein de l'OTAN, en opération dans le Golfe ou encore au Moyen-Orient, où elle entend bien rester. Le porte-avions Charles de Gaulle va d'ailleurs retourner au large de la Syrie. Sans oublier dans sa lutte contre le terrorisme, le Sahel. Engagement et solidarité de la France, le sommet de Pau avec ses homologues africains en a été la preuve pour Emmanuel Macron.
À Pau, les États membres du Sahel ont réaffirmé leur volonté politique d'être défendus, protégés et de coopérer avec nos armées. Le cap est fixé. Dans un an, la force Barkhane sera devenue une coalition militaire internationale, ce qu'elle est déjà en partie, grâce aux contributions de nos partenaires européens et américains.
Face à cet effort soutenu, le président de la République s'est également voulu rassurant sur le quotidien des soldats et sur leur retraite. Le métier des armes n'est pas un métier comme les autres. La prise en compte de ces spécificités sera tenue, a assuré le chef de l'État.
Les frappes iraniennes le 8 janvier dernier ont en fait 11 blessés chez les Américains présents sur la base militaire irakienne qui avait été visée. Washington le reconnaît ce matin, contrairement donc à ce qu'avait annoncé le président Donald Trump au début du mois. Partons maintenant en Allemagne où les agriculteurs se préparent à un week-end de manifestations. Ils ont prévu notamment d'envahir Berlin pour protester contre l'infléchissement de la politique agricole qui entend se verdir outre-Rhin. Une loi en ce sens est présentée aujourd'hui au Bundesrat, la chambre basse du Parlement, et le monde agricole allemand maintient la pression, Marie-Pierre Véraud.
La dernière fois qu'ils ont investi la capitale, c'était en novembre, des tracteurs portent de Brandebourg pour faire entendre l'inquiétude du monde paysan face au durcissement de la politique agricole. Le modèle allemand très intensif doit évoluer. Le gouvernement le répète depuis la présentation de son plan agriculture en septembre dernier, plan qui a déclenché une fronde inédite outre-Rhin. Moins de pesticides et d'engrais, interdiction du glyphosate à partir de 2024, création d'un label national sur le bien-être animal, réduction des cheptels pour lutter contre les gaz à effet de serre et normes plus strictes sur les nitrates. L'Allemagne a en effet été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour le niveau très élevé de pollution de ses nappes phréatiques. Mais les agriculteurs allemands demandent plus d'incitations et moins d'interdictions. Leur mobilisation marque aussi le malaise des campagnes, alors que fondent les revenus et que diminue le poids de l'agriculture dans l'économie du pays.
Le temps ce vendredi sera pluvieux sur toute la métropole avec de la neige en montagne selon Météo France. Ce matin, il fait 5 degrés à Besançon, 8 à Rennes, 9 degrés à Lille, 10 à Paris, Bordeaux et Lyon et 13 degrés dans la matinée à Marseille.